Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Art Interview sur Art District Radio. Je suis aujourd'hui avec deux réalisateurs de films. À mes côtés, Guillaume Géhanin et Josa Enjambe. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Mais on va parler de deux de vos courts-métrages dans cette émission aujourd'hui. Un court-métrage qui s'appelle La Luthière pour vous, Guillaume Géhanin. Et un court-métrage qui s'appelle « Le bleu, blanc, rouge de mes cheveux » pour vous, Josa Enjambe. Alors, deux courts-métrages à tous les deux qui ont déjà fait beaucoup de festivals, qu'on a plaisir à découvrir et qu'on a eu justement plaisir à découvrir lors d'un récent festival de courts-métrages organisé par notre web radio. C'était le festival du cours d'art district au cinéma Royal Palace de Nogent-sur-Marne. Et pourquoi vous êtes ici tous les deux? Eh bien parce que vous, Guillaume Géhanin, vous avez eu le prix du jury lors de ce festival avec 10 films en compétition. Et vous, Josa Enjambe, pour votre court-métrage, eh bien vous avez eu le prix du public. Merci beaucoup donc d'être là pour parler un peu plus justement de ces deux films donc, qui ont plu, hein, qui ont beaucoup plu et qui ont deux histoires très différentes, hein, on va voir. Alors Guillaume Géhanin, parlez-nous un petit peu de ce film qui s'appelle La Luthière, qui est un petit peu sur le mode du film d'animation, à peu près 6 minutes je crois. Quelle est la genèse de ce film qui fait un focus notamment sur le monde de la musique et surtout sur les instruments de musique?
Alors en fait, la genèse de ce film, c'est tout d'abord une rencontre avec, avec une luthière vénézuélienne qui s'appelle Gisela Bastidas. Et donc cette rencontre a donné lieu à pas mal de discussions. Elle était en France pour quelques semaines pour voir sa fille, Alba. Et dans toutes ces discussions, voilà, j'ai commencé à apprendre des choses à propos de son métier de luthière au Venezuela et ce qu'elle faisait dans son quotidien là-bas. Et donc elle m'a tout de suite raconté que dans son quotidien, elle s'occupait des instruments de musique de l'Orchestre National du Venezuela. Et en fait, donc, c'est surtout des instruments en bois, c'est-à-dire des violons, des contrebasses. Et donc, dans son atelier, défile tous ces instruments. Et souvent, elle disait que, une fois les musiciens arrivés au Venezuela, ou même les musiciens en partant, il y avait des contrôles de douane. Et donc, des douanes qui, à la recherche de drogue ou de stupéfiants, ou même d'armes à feu, pouvaient vraiment casser les instruments, les martyriser. Et donc,
ça vous a touché, en fait, le fait que ces instruments ont une vie aussi à eux et que là, ils sont maltraités.
Voilà, en fait, c'est tout de suite... Il y avait quelque chose qui revenait assez souvent, c'était bon, voilà, on sort les instruments de l'avion et puis on les fait passer sur des rouleaux, on les scanne, on se les fait passer dans les couloirs de l'aéroport, on les met sur le terre-plein de l'aéroport, sur la piste de décollage, on les fait sécher au soleil. Et donc là, le bois, la matière principale de ces instruments, se transforme, se fissure et donc les sons changent. Et elle, son métier en tant que luthière, c'est de revenir vers un son qui lui convient et qui convient à ses musiciens et à ses musiciennes. Et donc voilà, c'est une espèce de comme ça de cercle comme ça. Et en fait, aussi dans un pays où la situation est pas facile par rapport aux violences, par rapport à une crise vénézuélienne qui est vraiment ultra présente avec beaucoup de forces policières qui est beaucoup de corruption, quoi, et beaucoup de problèmes avec des manifestations qui sont souvent sanglantes. Mmh. Et donc, je trouve que c'était aussi une sorte de métaphore de ce qui pouvait se passer dans certains pays d'Amérique du Sud, et plus particulièrement au Venezuela.
Oui, donc au-delà de la simple petite histoire, finalement, de ces instruments, c'est aussi de mettre en lumière une histoire un petit peu plus globale, voire politique, sur la situation du Venezuela aujourd'hui.
Oui, et puis c'était en fait, bon, voilà, il y a énormément de soucis. Et donc, il y a par exemple des files d'attente interminables en pleine ville, à Caracas, pour récupérer un produit du quotidien, comme un dentifrice ou un paquet de cigarettes. Il y a beaucoup de personnes qui maigrissent, il y a beaucoup de manifestations qui sont réprimées et qui sont sanglantes. Et donc, dans tout ça, moi, voilà, je considère qu'il y a. Dans tout ça, il y a cette personne, cette luthière, qui vit la situation dans son quotidien et qui se bat pour la musique, qui se bat pour que des groupes multiples, parce qu'il n'y a pas non plus que l'Orchestre National du Venezuela, puissent continuer à tourner et à faire de la musique, à composer et à faire plein de choses. Et donc, il y a aussi beaucoup de choses qui se font avec la musique là-bas. Il y a par exemple, voilà, plein d'associations ou de groupes qui font un peu que la jeunesse comme ça peut faire de la musique et elle a un rôle, je pense, parmi d'autres personnes très important pour que justement cette culture musicale puisse être transmise et qu'elle puisse continuer.
Alors justement, il y a une forte présence forcément de la musique dans ce court-métrage, puisqu'il n'y a pas de paroles, en fait, on entend uniquement la musique et puis le bruit aussi des instruments.
Oui, en fait, donc ce film d'animation qui est fait au fusain, à la craie, au crayon, image par image, les sons sont des bruits commencent par une musique comme ça de Dudamel accompagné de l'orchestre Young Orchestra qui est un jeune orchestre vénézuélien et qui sur une musique qui est la danse des Mayas, mm-hmm. Encantamiento de Revueltas, et ensuite on passe à la musique qui est beaucoup plus électronique et
frénétique,
voilà, de Pauline Oliveros et qui est une compositrice de musique électronique expérimentale américaine. Et donc ces musiques, bon, voilà, ces musiques de trafic, de bruit électronique, de voix, de circulation dans la ville ou dans des réseaux comme ça de virtuels ou d'électronique m'ont beaucoup plu. Mm-hmm. Et c'est pour ça que j'ai considéré que c'était un bon choix pour toute cette musique expérimentale comme ça, très particulière, faite de murmures et de sons comme ça très très spéciaux, et c'était un bon choix pour accompagner ces images d'aéroports, de sas de sécurité, de sas de contrôle, de surveillance policière et de un peu de comme ça de pour accompagner aussi les instruments dans leur et les musiciens dans leur trajectoire jusqu'à l'atelier de Gisela, la luthière. Et je considérais que toutes ces métamorphoses sonores pouvaient vraiment accompagner le bois et tout le reste. Tous ces trajets, et puis aussi le crayon, le fusain, et puis les différentes directions et les différents mouvements du dessin et donc du film d'animation.
Donc un film qui a aussi une forte fibre artistique, hein, on le ressent autant dans cet aspect très dessiné du film d'animation, autant sur le plan musical. On a parlé également de cet aspect plus large politique. Alors, je me tourne vers vous maintenant, Josa Enjambe, parce que votre film, s'il y a peut-être un lien à faire, même s'il est sur dans un style tout à fait différent et beaucoup plus réaliste que le film de Guillaume Jeanin, il a aussi une portée politique qui se retrouve d'ailleurs d'une manière assez symbolique dans le titre, le bleu, blanc, rouge de mes cheveux. Alors, vous allez nous en parler, c'est un film touchant. C'est un film, moi, où effectivement, il y a une phrase qui ressort, on peut peut-être la citer, qui arrive à peu près au milieu du film, qui est « Ça passe pas, vous êtes hors cadre ». Et là, on voit une jeune fille qui vient juste d'avoir son bac, qui est en train de vouloir acquérir sa carte d'identité française. Elle est donc dans un bureau de l'administration et elle a une coupe afro, en fait, qui est assez imposante. Et là, en face d'elle, l'employé de l'administration lui dit « ça passe pas, vous êtes hors cadre ». C'est une phrase qui est vraiment assez violente. On ressent une histoire personnelle. Je crois qu'il y a une histoire personnelle derrière l'histoire de ce court-métrage.
Ouais, enfin, le film, c'est pas mon histoire personnelle, mais il y a effectivement la phrase du hors cadre, c'est une phrase que j'ai reçue quand j'exerçais encore le journalisme il y a quelques années, et de manière absolument classique, je devais faire, on fait souvent plusieurs passeports parce qu'on voyage beaucoup, et j'avais une afro comme ma comédienne, comme le personnage principal, et on m'a dit « vous êtes hors cadre ». Et en fait, ce truc-là, cette espèce d'injonction, c'est un peu... sur le coup, on le prend comme ça, moi je suis allée me faire coiffer, bon voilà.
Qu'est-ce que vous avez ressenti justement sur le moment ?
Je crois que je me souviens pas, parce que c'est tellement violent que inconsciemment, je me suis anesthésiée de ce truc-là. C'est resté, et c'est ressorti comme ça, à diverses occasions. Ce qu'on me disait à ce moment-là, c'était que moi, en tant que femme... noire française, puisque moi j'étais née sur... Enfin, moi je suis née en France, je sais pas comme mon personnage principal, mais du coup on me disait que j'étais pas française. Mmh. Et on m'amputait de ce qui m'est le plus cher, à savoir mon appartenance à la France, en fait, parce que si j'appartiens pas à la France, on fait de moi une apatride. Et enfin, voilà, c'est ce qui aussi me définit. C'est pas que ce qui me définit, mais c'est aussi ce qui me définit. Et du coup, ce truc-là, je crois que ça a été une espèce de traumatisme. Que j'ai enfoui longtemps et qui est ressorti à un moment où y avait énormément de questions identitaires qui se posaient dans ma construction d'individu. Et voilà, j'en ai fait un film. En fait, le film, je l'ai créé à partir de cette séquence-là.
Oui, c'est votre premier film de fiction, je crois.
Ouais.
Et justement, vous disiez que vous étiez journaliste auparavant. En venir à la réalisation, comment ça s'est fait ?
Ça s'est fait.
C'était un désir enfoui également.
Non, mais c'était pas programmé. C'est vrai que moi, je rêvais à la base d'être journaliste d'abord en radio. Il se trouve que j'ai mis un pied dans la télé et j'ai adoré ça.
Donc là, on est en radio, ça tombe bien.
Ouais, c'est trop bien. Mais du coup, j'ai mis un pied en télé. J'ai adoré le rapport à l'image. Après, j'ai pris beaucoup de distance avec le journalisme parce que je considère que les journalistes ont une responsabilité en tant que, au moins, au minimum, une responsabilité citoyenne. Et depuis les attentats, je prends mes distances parce qu'on véhicule souvent des images qui font mal, dont on pèse pas forcément l'impact, et on a une responsabilité qu'on mesure plus. Donc je prends mes distances par rapport aux rédactions que j'intègre. Entre-temps, ce truc-là se passait, je me suis fait larguer par quelqu'un que j'aimais beaucoup, donc je me suis mise à écrire. et en écrivant, c'est ça qui est ressorti, la question de l'identité aussi, entre autres. Plein d'autres choses, mais cette question-là. Et du coup, j'ai un pote, un jour, il m'a dit c'est de la fiction que t'écris. Donc du coup, c'est venu comme ça. Je me suis pas dit je vais faire du cinéma un jour dans ma vie, ou je vais faire un court-métrage, ou j'ai envie de faire un court-métrage. C'est-à-dire que c'est arrivé comme ça, ça s'est imposé comme ça, et je l'ai fait, j'ai pas résisté.
Donc c'est vous qui avez écrit tout le scénario,
ouais,
avec une fin... très touchante, on ne va pas la raconter, mais une décision surtout de cette jeune fille, hein, l'actrice, elle s'appelle Senna, dans l'histoire, et elle va prendre une décision radicale avec justement ses cheveux. Les cheveux aussi, ça c'est très symbolique. Comment vous avez pensé finalement à faire une histoire autour des cheveux ?
En fait, la question du cheveu, c'est compliqué de parler de ça sans dévoiler la fin. Je vais moi-même prendre la responsabilité de spoiler mon film.
On va pas dévoiler la fin là.
C'est-à-dire que quand on parle des femmes qui ont pendant la Seconde Guerre mondiale ont été rasées, quand on parle des femmes qui perdent leurs cheveux parce qu'elles sont atteintes d'une maladie, ou quand on, il y a un moment donné, il y a la question de la féminité et de ce qu'on perd. Qui se joue. Il y a une question d'une partie de soi qu'on perd de toute façon. Pareil pour les femmes qu'on rasait en Algérie, etc. C'est carrément politique, en fait. Et donc, à travers le cheveu, la question du cheveu, je voulais poser un acte qui soit à la fois politique en réponse au hors-cadre. Et en même temps, c'est des questions... Toutes les ados se posent la question de leur paraître. Et le cheveu est une des questions du paraître que cet ado elle pourrait se poser. Et c'est aussi une réponse qu'elle donne à son père en disant tu vois, c'est tellement violent ce que tu me dis de ne pas de renoncer à l'identité française que, certains auraient cassé des assiettes, d'autres auraient fait des fugues, d'autres ils auraient insulté. Enfin, elle décide d'aller un peu plus loin parce que c'est aussi une ado qui est assez taciturne. Et j'ai voulu qu'elle soit, un petit peu plus grave. J'allais dire grave que les ados que j'ai pu côtoyer, moi, quand j'étais ado. Donc j'en ai fait un personnage tellement grave qu'il est capable d'aller si loin que ça.
Oui, un personnage qui est déjà très mature pour son âge. Et puis, il y a aussi, évidemment, la question de la génération. C'est-à-dire qu'elle est aussi en conflit avec son père. Donc là, il y a aussi... un travail sur ce lien entre père et fille.
Ouais, il y avait plusieurs lectures possibles, parce que j'avais une obsession, c'était de me dire, en écrivant le film, est-ce que tout le monde peut comprendre ce film ? Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit ado, qu'on soit adulte, qu'on appartienne à la première génération qui est arrivée sur le territoire français ou qu'on appartienne à celle qui est née sur le territoire français, il fallait absolument pour moi que tout le monde puisse comprendre. Et donc, je ne sais pas vous dire exactement si je l'ai fait consciemment ou pas, mais il fallait que j'instaure différents niveaux de lecture. Il fallait que le spectateur, quelles que soient ses origines, quel que soit son milieu social, il puisse lire ce film et qu'il ait une porte d'entrée, en fait. Et donc, la question aussi intergénérationnelle, elle se jouait aussi là, en fait.
Alors, est-ce que justement, José Enjambe, vous êtes allé voir des jeunes ? Est-ce que vous avez discuté avec des jeunes d'aujourd'hui sur le regard qui portent des jeunes de l'immigration, par exemple, sur le regard qu'ils portent sur leur situation, ce qu'ils ressentent vis-à-vis de la France ?
Ça, c'est un truc, c'est complexe, parce que c'est à travers le regard de l'autre qu'on perçoit ça. C'est-à-dire que le jeune qui a 17 ans, qui se lève tous les matins, il ne se dit pas « je suis un fils d'immigré » ou « je suis noir » ou « je suis arabe » ou il le sait, c'est en lui, il ne peut pas faire autrement. Et il ne peut pas raisonner qu'en considérant cette condition-là. Et en fait, ce qui fait qu'à un moment donné, tous ces sentiments sont exacerbés ou en permanence questionnés au point de dérouter des gens, c'est que dans le regard des autres, on nous renvoie à ça, en fait.
Oui, au quotidien, il y a des situations qui font que ça revient sur le tapis.
Systématiquement, en fait. Mais le problème, c'est que les gens ne sont pas que ça, en fait. Les jeunes...
Ils vous ont dit des choses, les jeunes, là-dessus ?
Ouais, tout le monde m'a dit des choses, en fait. Même les vieux, quoi. Même les vieux dans le sud. Tout le monde, vraiment. C'est un film qui, étonnamment, moi, ça m'a étonnée de voir que les gens, ils pleurent, ils viennent me voir, machin et tout. Et les jeunes, eux, ils voient pas le film de cet angle-là, en fait. Il se dit juste pourquoi elle s'est pas re-spoil le film. Il se dit juste pourquoi elle a pris cette décision. Parce qu'ils sont dans le regard de jeunes. C'est compliqué de ce point de vue-là est compliqué. Cette question-là est compliquée parce que ça pose un postulat de départ qui est celui qui observe et pas celui qui est observé, en fait.
Mais je croyais que j'étais camerounais.
Mais t'es surtout français puisque t'es né ici.
Et pourquoi je peux pas être les deux ?
Ça suffit avec cette histoire.
Ça doit être archi fier, tes parents.
Ouais.
Pire tir à voter au Cameroun.
Arrête. comprends pas que tu m'étouffes.
Guillaume Jeannin, vous avez vu le film de Josa Enjambe. Un petit mot?
Bah c'est un film qui m'a beaucoup plu.
Merci.
J'ai trouvé que c'est, déjà il y avait une interprétation de la part des acteurs qui était vraiment sincère et assez touchante et géniale, quoi. Que ce soit le père, le petit frère, la fille et toutes ces scènes comme ça. Il y avait un petit côté comme ça, de d'enfer administratif, l'enfer de la paperasse, l'enfer d'aller vers des choses qui sont complètement comme ça, des espèces de, voilà, avoir une photo, avoir un dossier pour recevoir d'autres dossiers, pour recevoir des dizaines d'enveloppes et les renvoyer avec des signatures.
Tant de parcours.
C'était un
du
peu, voilà, le procès de Kafka, voilà, une espèce d'enfer où les 12 travaux d'Astérix et Obélix sont une espèce de... Comme ça, j'ai trouvé ça... enfin, on sentait bien cette pression comme ça, administrative comme ça, sur la personne. Et puis aussi dans cette pression sur ses propres choix par rapport à sa famille, par rapport à un passé, par rapport à son avenir à elle. Donc, j'ai beaucoup aimé, quoi.
Si. Voilà.
Alors justement, sur les acteurs, comment vous avez fait le choix, comment ça s'est fait? Parce que c'est vrai qu'ils sont tous très touchants dans ce film.
A posteriori, je me rends compte que j'ai pris quasiment que des comédiens de théâtre. Au départ, c'était pas une volonté spécifique. Mais c'est vrai que je crois que j'ai vu une soixantaine de jeunes filles pour le rôle de Senna. Au départ, les filles, elles arrivent, elles sont toutes plus ou moins mignonnes, etc. Bon, bah, y a celles qui n'ont pas appris le texte. Sur une ou deux pages, c'est compliqué parce qu'on se dit comment peut-on travailler avec des gens qui ne s'investissent pas sur une page, c'est compliqué. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont été éliminés. Il y avait aussi des problèmes de diction. Enfin, tous ces détails techniques, je les ai vite évacués. Et ensuite, je voulais vraiment quelqu'un qui soit... Il y avait une formidable comédienne aussi que j'avais rencontrée qui s'appelle Juliette Speck. Et en fait, ça s'est joué simplement parce qu'il y a eu un coup de cœur pour Grace Séry, qui est la comédienne qui joue le rôle de Senna. C'est-à-dire que quand elle est arrivée dans la cour, où on passait le casting, je savais même... Je ne l'ai pas reconnue, mais je savais que c'était elle. Elle avait un port de tête, elle avait une élégance. Et regarder dans les yeux, enfin, c'est quelqu'un qui vous transperce. Et je savais que c'était elle, instantanément. Donc, ça a été assez rapide. Après, Augustin Ruabura, le comédien qui incarne le père, je l'avais rencontré dans un bus un soir où j'étais tellement désespérée. Il pleuvait, il fallait que je porte mon lait, mon machin et tout. C'était compliqué, je le rencontre dans ce bus. Et je l'avais déjà vu dans un autre film. Et je lui ai parlé, je lui ai dit que j'écrivais pour lui. Et quand je l'ai vu en vrai, je savais, en chair en os, je me suis dit, c'est lui. Et puis après, pour le gamin...
Donc des coups de cœur, là, à chaque fois, en fait.
Toujours. Moi, c'est vraiment... J'espère pouvoir avoir tout le temps, mais même la comédienne Cécile Kiefer, qui incarne la dame qui est derrière le bureau dans l'administration, j'ai eu un coup de cœur pour elle. C'est dire que les petits rôles sont des grands... Enfin, ils sont super importants. C'est des tout petits détails, mais ils sont tellement importants parce qu'ils donnent du jeu aux comédiens qui sont en face. Et c'est aussi grâce à ça que les grands rôles, j'allais dire, se révèlent. Donc c'était super important pour moi. Anthony Bajon aussi, qui joue l'apprenti, coup de cœur. Enfin, je les aime tellement, quoi. Je les aime tellement. Et je crois que dans le court-métrage, on a encore le temps et la place pour rencontrer tous les comédiens. Et même si moi, ça m'a fatiguée, ça m'a mis à plat, parce qu'il fallait aller en Bretagne, parce qu'on a eu l'aide de la région Bretagne, etc. Donc voir aussi des comédiens bretons. Mais j'ai tenu à faire tous les castings moi-même, avec un directeur de casting, évidemment, mais j'étais là.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'investissements, même si c'est un court-métrage. Hein, il ne faut pas croire qu'un court-métrage
film, en fait,
se fasse manière très rapide.
Un court-métrage, c'est bâtard comme nom, parce que ça reste un film et on a les mêmes problèmes que pour le long, de financement, de cohérence, de rencontrer les bons comédiens, de « je suis dispo, je ne suis pas dispo », de « il pleut pas », de Enfin, c'est, voilà, c'est juste une échelle un petit peu plus petite, mais les problèmes se posent de la même manière.
C'est une échelle qui permet aussi, quand on est jeune réalisateur ou réalisatrice, de se faire aussi la main. C'est aussi le choix du cours, j'imagine.
Non, c'est pas vraiment.
Pas forcément.
Non, moi, vraiment, c'est un format, effectivement, qui permet ça. On peut plus facilement se planter quand il n'y a pas d'enjeu financier, alors que quand on fait un film à 1 million ou à 2 millions, quand il n'y a pas de tête d'affiche, quand il n'y a pas de la pression de je ne sais pas quel distributeur, ou, enfin voilà, on n'a pas toute cette pression-là. Mais moi, pour moi, l'exigence, elle est la même, en fait. Et c'est parce que je suis comme ça. Mon honnêteté à moi fait que cette exigence-là, je ne peux pas transiger, je ne peux pas jouer avec. Mais oui, c'est effectivement le court-métrage, c'est un endroit où on peut encore expérimenter, c'est un endroit où on peut se planter, j'ose espérer que le long aussi. Mais je ne me suis pas dit, je vais faire un court-métrage pour ces raisons-là.
Non, c'était vraiment aussi le format que vous souhaitiez.
C'était le format que je souhaitais, aussi parce que un producteur, il est là pour vous dire, vous faites un 20 minutes, c'est... Enfin, il y a un coût financier qui est là, on peut pas faire... Et puis parce que si vous faites un film de 35 minutes, c'est difficile de le montrer en festival. Enfin, il y a plein de paramètres.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi, voilà, c'est ce que j'allais dire, beaucoup de festivals, de courts-métrages, ce qui permet effectivement que le film soit vu, même dans plusieurs pays. Je crois que votre film est allé jusqu'à New York.
Ouais.
Il a été aussi présenté à Clermont-Ferrand.
Enfin, en ce moment, New York, c'est chaud. Hein. Voilà. Enfin, ils ont un président, c'est chaud.
Je sais pas oui, si... là, je parlais juste du festival de courts-métrages, ce qui n'empêche pas, heureusement, toujours aux courts-métrages de voyager. Enfin, pour le moment, en tout cas. Guillaume Jeannin, un petit mot justement sur ce format court que vous utilisez aussi. Donc là, avec La Luthière, par exemple, combien de temps comment vous avez fabriqué ce film? Je dis fabriqué intentionnellement parce que c'est un film qui a un petit côté artisanal qu'on aime bien, justement.
Alors, ce film, tout simplement, je l'ai réalisé dans mon atelier... à Saint-Denis, et donc pendant environ 2 mois j'ai vécu une vie un peu d'ermite comme ça avec mes dessins sur mon mur, mon dispositif de captation qui était fait donc d'un appareil photo et d'un projecteur de lumière et d'un trépied, et donc image par image l'avancement du film s'est fait. Et donc ça donnait lieu à des situations assez drôles et loquaces, dans le sens où voilà, je vivais vraiment avec mon travail, avec mes dessins, au milieu comme ça de mon atelier, avec mon dispositif d'éclairage. Et donc voilà, avec du fusain sur le visage, de la craie blanche sur l'oreille.
En mode artiste.
Voilà, une espèce de... Et puis donc voilà, le fusain, c'est du bois, c'est comme du bois brûlé. C'est du bois brûlé, donc c'était aussi un rapport comme ça, aussi bien que ce soit avec les crayons, avec mes différents outils, un travail un peu comme ça de dessin, évolutif comme ça, une sorte de tableau évolutif au dessin. Et voilà, c'était très, on va dire, amusant, dans le sens où c'est aussi gérer un dispositif, et c'est commencer à faire de l'animation, et faire de l'animation tout seul, voilà, moi les modèles que j'avais en animation, c'était par exemple un réalisateur sud-africain qui s'appelle William Kendridge, qui fait beaucoup de films d'animation comme ça, avec beaucoup en tant qu'indépendant, en tant que cinéaste indépendant. Et voilà, donc quand j'ai commencé ce film, j'avais plein d'images qui me venaient en tête, j'avais beaucoup de fantasmes, beaucoup de choses, et c'est au fur et à mesure du temps comme ça que le film se réalisait, que parfois ça allait dans un sens que j'attendais, parfois ça allait dans un sens complètement inattendu. Je pouvais avoir des surprises, et donc parfois avoir des phases de création où je rentrais vraiment dans l'image, dans des sortes de phases, des phases où je savais où j'allais, mais en même temps le fait de prendre des risques et ça donnait de l'adrénaline aux situations. Et donc les dessins comme ça évoluaient de manière assez surprenante.
C'est-à-dire que vous n'aviez pas forcément un plan précis du scénario à l'avance, ça s'est fait un petit peu au gré de l'imagination et de la créativité.
Alors j'avais quand même voilà, écrit
un fil conducteur,
écrit un scénario. Je savais quelles allaient être les scènes, sinon je savais très bien que j'allais rentrer dans une espèce d'infini du dessin comme ça, où
parce que faut préciser que vous êtes aussi dessinateur, artiste. Je crois que vous exposez aussi dans des galeries. Vous n'êtes pas que réalisateur.
Avant de faire des films. Je faisais de la peinture, du dessin. J'ai fait l'École nationale d'art de Paris-Cergy. Et donc, je suis passé par aussi bien la peinture, le son, le volume que par la photographie et puis bien sûr le cinéma, quoi.
Alors, qu'est-ce que vous préférez là-dedans ? Il y a peut-être pas de préférence.
Moi, je suis, on va dire, un cinéaste, plasticien, peintre, dessinateur. Et voilà, je pratique plusieurs médiums pour raconter des histoires. Et ce film d'animation, c'était une première, dans le sens où moi, gamin, j'ai toujours voulu réaliser des films d'animation. J'ai toujours regardé des films d'animation.
Ah, c'est votre premier, La Luthière.
Avant La Luthière, j'avais fait des films en stop motion, en pâte à modeler, en volume, comme ça, très inspiré, comme ça, de par exemple ces Gromit ou des films de Tim Burton, voilà, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais bon, j'étais vraiment ado ou vraiment très jeune. Et donc pendant pas mal de temps, comme ça, j'ai fait mes films, mais qui étaient plutôt des films expérimentaux, des films on va dire qui mélangent comme ça aussi bien le documentaire, la fiction. Et puis il y a un moment donné comme ça où j'ai décidé que cette histoire, il fallait que je la raconte par le dessin. Et c'était vraiment aussi une envie de revenir à la pratique du dessin. Et puis une sorte de... Le dessin, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché. On peut y exprimer des millions d'émotions et de choses. Et donc voilà, je l'ai fait vraiment en indépendant. Voilà.
Alors c'est vrai que ce qui est intéressant avec tous les deux aujourd'hui, c'est qu'on a deux films très différents dans le style et puis dans l'esthétisme aussi. Évidemment, j'invite les auditeurs à découvrir vos films peut-être lors de prochains festivals. Avant de se quitter, peut-être un petit mot sur justement l'avenir de vos deux courts-métrages à tous les deux. Donc Guillaume Jehanin pour La Luthière, est-ce qu'il y a des projets à venir ?
Bien sûr, des projections dans l'avenir. Et puis là, voilà, je propose toujours le film à des festivals. Puis peut-être très bientôt me remettre à faire des films d'animation avec mes autres projets.
Et vous, Josa, en jambe, sur le bleu, blanc, rouge de mes cheveux.
Il y aura la suite, c'est que le film, il est pré-sélectionné, je dis bien pré-sélectionné au César. Donc,
c'est une jolie nouvelle.
Oui, c'est une jolie nouvelle. Après, moi, je suis très contente. Après, le film, il fait sa vie. Hein. C'est comme un enfant. Nous, on l'a fait, on le donne au public. Le public s'en empare. Il voyage, il prend son passeport pour le monde. Enfin, vraiment, le truc, il fait sa vie. Bon, voilà. Et puis là, il est présélectionné au César. Arrivera ce qui arrivera. Et puis après, il continue sa petite carrière en festival. Moi, je lui souhaite que du bien. Hein.
Voilà, donc j'imagine qu'on peut retrouver des informations sur vos profils, réseaux sociaux et autres sites internet.
Exactement.
À tous les deux.
Je ne suis pas très, très, très réseaux sociaux. J'aime bien
je crois qu'il y a un
bulle.
Facebook, le bleu, blanc, rouge de mes cheveux que j'ai vu.
Voilà, c'est ça. Il y a un Facebook, le bleu, blanc, rouge de mes cheveux. Après, pour le reste, j'aime bien me préserver et me protéger de toute cette bulle qui m'agresse un peu. Donc ça, on se contentera de ça.
Alors cependant, j'espère que même si cette bulle vous agresse un peu, vous allez continuer dans la réalisation, parce que c'est vrai, quand on voit votre premier court-métrage, on a envie de se dire bon, cette jeune fille va peut-être en faire d'autres, et puis peut-être même un long un jour.
Oui, c'est dans les projets, Après, c'est long, justement, c'est très très long. Et le truc, c'est que quand on a fait un premier film qui fonctionne relativement bien, on peut pas revoir à la baisse ses exigences. Donc, ça prend un petit peu plus de temps et voilà. Après, on verra. Mais je vous tiendrai au courant.
En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Donc, je rappelle que j'étais avec Guillaume Jehanin, réalisateur du film La Luthière, et Josa Enjambe, réalisatrice du film Le Bleu, Blanc, Rouge de mes cheveux. Un grand merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission qui est l'émission Art Interview sur la web radio Art District. Et c'était aujourd'hui, je tiens à le dire, une grande première pour nous aussi, puisque c'est la première fois qu'on enregistre dans ce très joli studio radio qui se situe à l'antenne. Donc j'étais ravie de vous avoir pour inaugurer ce studio et donc cette émission dans ce studio. Merci.
C'était un plaisir.
Merci.